Charles Dickens, Barnabé Rudge, traduction de M. Bonhomé. Chapitre 16. Une série de peintures représentant les rues de Londres la nuit, à la date comparativement récente de cette histoire, offrirait aux yeux quelque chose d'un caractère si différent de la réalité dont nous sommes aujourd'hui les témoins, qu'il serait difficile pour le spectateur de reconnaître ces plus familières promenades à la distance d'un demi-siècle ou à peu près. Elles étaient, depuis la première jusqu'à la dernière, depuis la plus large et la plus belle jusqu'à la plus étroite et la moins fréquentée, fort ténébreuses. Les réverbères à mèches de coton imbibées d'huile, quoique régulièrement visités deux ou trois fois durant ces longues nuits d'hiver, ne brûlaient qu'à peine dans les meilleurs cas, et, à une heure avancée, lorsqu'ils n'avaient plus l'assistance des lampes et des chandelles des boutiques, ils ne projetaient sur le trottoir qu'une traînée de lumière douteuse, laissant les portes en saillie et les façades des maisons dans la plus profonde obscurité. Une foule de cours et de ruelles était totalement abandonnée aux ténèbres. Les voies publiques d'un ordre inférieur, où une faible lumière clignotait pour une vingtaine de maisons, passaient pour être très favorisées. Même dans ces quartiers, les habitants avaient souvent de bons motifs pour éteindre leur réverbère aussitôt qu'on l'allumait, et la surveillance étant impuissante à les empêcher de le faire, ils ne se gênaient pas pour recommencer selon leur bon plaisir. Ainsi, dans les passages les mieux éclairés, il y avait à chaque tournant quelques places obscures et dangereuses où un voleur pouvait se sauver et se cacher, et où peu de gens se souciaient de le suivre, et la cité était alors séparée des faubourgs qui l'ont rejointe depuis par une ceinture de champs, d'allées vertes, de terres incultes, de routes solitaires, qui permettaient aux malfaiteurs, même quand la poursuite était vive, de s'échapper aisément. Il ne faut pas s'étonner qu'à la faveur de ces circonstances en pleine et incessante activité, des vols dans les rues, vols souvent accompagnés de cruelles blessures et maintes fois de morts d'hommes, eussent lieu nuitamment au cœur même de Londres, ni que les gens paisibles éprouvassent une grande frayeur à traverser ces rues quand les boutiques étaient fermées. Pour ceux qui rentraient seuls chez eux à minuit, c'était une habitude assez commune de tenir le milieu de la chaussée afin d'être mieux en garde contre les voleurs en embuscade sur les bas-côtés. On y regardait pour s'en retourner sur le tard à Kentish Town ou à Hampstead, ou même à Kensington et à Chelsea, sans armes et sans escorte. Et celui-là même qui venait de faire le brave au souper de la taverne et qui n'avait qu'un mille environ à faire n'était pas fâché de payer un porteur de torches pour se faire escorter jusque chez lui. Beaucoup d'autres détails caractéristiques, pas tout à fait si désagréables, se voyaient alors à Londres dans les voies de circulation, détails avec lesquels on était depuis longtemps familiarisé. Quelques boutiques, spécialement celles du côté oriental de Temple Bar, adhéraient encore à l'ancien usage de suspendre à l'extérieur une enseigne, et ces belles images, en criant et se balançant dans leur cadre de fer durant les nuits venteuses, formaient pour les oreilles de ceux qui étaient au lit, mais réveillés, ou de ceux qui traversaient les rues précipitamment, un concert étrange et lamentable. De longues stations de voitures de louage et des groupes de porteurs de chaises, en comparaison desquels les cochers d'à présent sont doux et polis, obstruaient la voie publique et remplissaient l'air de clameurs. Les caveaux nocturnes, indiqués par un petit courant de lumière qui, franchissant le trottoir, s'étendait jusqu'au milieu de la rue et par le tapage étouffé des voies d'en bas, restaient béants pour recevoir et régaler les êtres les plus dépravés des deux sexes. Sous chaque auvent et à l'encoignure de chaque édifice, des porteurs de torches, en petits groupes, perdaient au jeu leur gain de la journée, où l'un d'eux, plus las que les autres, cédait au sommeil et laissait le reste de sa torche tomber en sifflant sur le sol bourbeux. Il y avait aussi le veilleur, avec son bâton et sa lanterne, criant l'heure qu'il était et le temps qu'il faisait, et ceux qui, réveillés à sa voix, se retournaient dans leur lit, ne l'en trouvaient que meilleur en apprenant avec plaisir qu'il pleuvait ou qu'il neigeait ou qu'il ventait ou qu'il gelait, sans qu'ils en souffrissent en rien dans leur confort. Le passant solitaire tressaillait au cri des porteurs de chaises « Place, s'il vous plaît !» lorsque deux de ces hommes arrivaient en trottant et le dépassaient avec leur véhicule à vide, renversé en arrière pour montrer qu'il était libre en se précipitant vers la station la plus proche. maintes chaises particulières, renfermant quelques belles dames, monstrueusement garnies de cerceaux et de falbalas, et précédées de coureurs portant des flambeaux, dont les étais noirs sont encore suspendus devant la porte d'un petit nombre de maisons du meilleur genre, donnaient à la rue un moment de gaieté et de légèreté, pendant qu'elle y passait en dansant, pour la rendre plus sombre et plus sinistre encore lorsqu'elle avait passé. Ce n'était pas chose rare pour ces coureurs, qui menaient tout le monde tambour battant, de se prendre de querelles dans la salle des domestiques, tandis qu'ils attendaient leur maître et leur maîtresse. D'en venir au coup, soit là, soit dehors, dans la rue, et de joncher le lieu de l'escarmouche de poudre à cheveux, de morceaux de perruques et de bouquets éparpillés. Le jeu, ce vice si répandu dans tous les rangs, il était mis naturellement à la mode par l'exemple des classes supérieures, était en général la cause de ces disputes. Car les cartes et les dés s'étalaient aussi à découvert, enfantaient autant de mal et produisaient une excitation aussi grande dans les vestibules que dans les salons. Tandis que des incidents de ce genre, provenant de soirées, de mascarades ou de parties aux quadrilles, jeu de 4 personnes avec 40 cartes, se passaient à l'extrémité orientale de la ville, de lourdes diligences et des charrettes massives, il n'y avait pas d'ailleurs grande différence de vitesse, roulaient lentement leur cargaison vers la cité. Le cocher, le conducteur, les voyageurs étaient armés jusqu'aux dents. La diligence, en retard d'un jour ou deux peut-être, mais on n'y regardait pas de si près, était dévalisée par des voleurs de grand chemin. Ces voleurs-là ne se faisaient pas scrupule d'attaquer, souvent seuls de leur bande, toute une caravane d'hommes et de marchandises. Ils tuaient quelquefois à coups de fusil un voyageur ou deux, quelquefois aussi ils se faisaient tuer eux-mêmes, selon que le cas se présentait. Le lendemain, le bruit de ce nouvel acte d'audace sur les routes parcourait la ville et fournissait matière aux conversations pendant quelques heures. Puis, une procession publique de quelques beaux gentlemen, à moitié ivres, dirigés sur Tyburn, habillés à la dernière mode et maudissant l'aumônier de la prison avec une bravoure et une grâce inexprimables, offrait à la populace un agréable divertissement en même temps qu'un grand et salutaire exemple. Parmi tous les redoutables individus qui, profitant d'un tel état de société, rôdaient et se cachaient la nuit dans la capitale, il y avait un homme dont beaucoup d'autres, aussi rudes et aussi farouches que lui, s'écartaient avec une terreur involontaire. Qui il était, d'où il venait, c'était une question souvent faite, mais à laquelle personne ne pouvait répondre. On ignorait son nom. Il n'y avait pas plus de 8 jours qu'on l'avait vu pour la première fois. Et il était également inconnu des vieux et des jeunes scélérats dont il s'aventurait sans crainte à hanter les repères. Ce ne pouvait être un espion, car il ne relevait jamais son chapeau rabattu pour regarder autour de lui, il n'entrait en conversation avec personne, ne s'occupait en rien de ce qui se passait, n'écoutait aucun discours, n'examinait ni ce qui arrivait, ni ce qui s'en allait. Mais aussitôt qu'on était au fort de la nuit, on était sûr de le retrouver au milieu de la cohue des caveaux nocturnes où se rendaient les bandits de tout grade, et il y restait assis jusqu'au matin. Ce n'était pas seulement à leur fête licencieuse qu'il avait l'air d'un spectre, de quelque chose qui les glaçait au milieu de leur bruyante gogaille et les obsédait comme un fantôme. Sorti de là, il était le même. Dès qu'il faisait sombre, il était dehors, jamais en compagnie de qui que ce fût, mais toujours seul, jamais ne s'arrêtant, ne flânant, mais toujours marchant. D'un pas rapide, regardant par-dessus son épaule de temps en temps, et après avoir regardé ainsi, accélérant son pas. Dans les champs, dans les sentiers, dans les routes, dans tous les quartiers de la ville est, ouest, nord et sud, on voyait cet homme glisser comme une ombre. Il était toujours pressé, ceux qu'il rencontrait le voyaient passer bien vite, il surprenait son coup d'œil en arrière et le voyait se perdre dans l'obscurité. Cette constante agitation, cette fuite errante et perpétuelle, donnait naissance à d'étranges histoires. On l'avait vu en des endroits si éloignés l'un de l'autre et à des heures si rapprochées qu'il y avait des gens qui n'étaient pas bien sûrs qu'au lieu d'être tout seul, cet homme-là ne fût pas double ou triple, avec des moyens surnaturels pour voyager d'un endroit à un autre. Le voleur à pied qui se cachait dans un fossé l'avait remarqué passant comme un spectre le long du bord. Le vagabond l'avait vu sur la grande route ténébreuse, le mendiant l'avait vu s'arrêter sur un pont, baisser la tête pour regarder l'eau, puis filer encore. Ceux qui trafiquaient des cadavres avec les chirurgiens pouvaient jurer qu'ils couchaient dans des cimetières et qu'ils l'avaient vu fuir en glissant parmi les tombes à leur approche. Et lorsqu'on se racontait ces histoires à l'oreille l'un de l'autre, on était tout étonné que le narrateur, après avoir regardé autour de lui, tirait son auditeur par la manche pour lui dire « Chut, il est là !» enfin un homme, un de ceux qui travaillent dans le cadavre, résolut de questionner cet étrange compagnon. La nuit suivante, quand l'autre eut mangé sa pauvre pitance avec voracité, on avait observé que c'était sa coutume de manger de la sorte, comme s'il ne faisait pas d'autres repas de tout le jour, notre gaillard vint s'asseoir auprès de l'inconnu, coude à coude.
« Une sombre nuit, maître. »«
Oui, une sombre nuit. »«
Plus sombre que la dernière, bien qu'elle fût noire comme de la poix. »«
N'est-ce pas vous que j'ai croisé, proche la barrière, sur la route d'Oxford ?»«
Comme il vous plaira, je ne sais pas. »
« Allons, allons, maître !» cria le questionneur, encouragé par les regards de ses camarades et lui tapant sur l'épaule.
« Soyez donc plus sociable, plus communicatif. Il faut se conduire en gentleman quand on est en si bonne compagnie. Il circule des histoires parmi nous que vous êtes vendu au diable et que sais-je encore ?»«
Est-ce que nous ne le sommes pas tous ici ?»
répliqua l'inconnu en redressant la tête.
« Si nous étions moins nombreux, peut-être nous donnerait-il un meilleur prix. »
« Ma foi, ça ne vous profite pas beaucoup, en effet, » dit le loustic, lorsque l'inconnu laissa voir sa sauvage figure toute crasseuse et ses vêtements en lambeaux.
« Qu'est-ce que ça veut dire ? Allons, gai, mon maître, un couplet de chansonnettes à nous faire rire aux éclats. »«
Si vous voulez entendre chanter, vous n'avez qu'à chanter vous-même, » répliqua l'autre en l'écartant avec rudesse.
« Mais ne me touchez pas, pour peu que vous ayez de prudence.
Je porte des armes qui partent aisément. » Elles l'ont déjà fait avant cette heure-ci, et des étrangers qui n'en savent pas le truc s'exposent en mettant la main sur moi.
« Est-ce une menace ?» dit le questionneur.
« Oui, » répliqua l'inconnu en se levant, se tournant vers lui et regardant à la ronde avec un air si farouche, comme dans l'appréhension d'une attaque générale.
Sa voix, son regard, son attitude, exprimant la scélératesse qui ne calcule rien et qui est capable de tout, domptèrent l'assistance par le dégoût autant que par la crainte, quoique dans une sphère très différente, c'était encore l'effet déjà produit à l'arbre de mai.
Je sais ce que vous êtes tous, et je vis comme vous vivez tous, dit l'inconnu d'un ton sévère après un court silence. Je me cache ici comme les autres. Et si nous étions surpris, je jouerais peut-être mon rôle avec les meilleurs d'entre vous. Si mon humeur est qu'on me laisse tranquille, laissez-moi tranquille, ou bien,
et il fit alors un terrible jurement, « Il y aura quelques mauvais coups de fée dans ce lieu, quoique vous soyez plus de 20 contre moi. » Un sourd murmure, qui tenait peut-être à la terreur qu'inspirait l'homme et au mystère qui l'environnait, peut-être aussi à la sincère opinion de quelques-uns des spectateurs, que ce serait un fâcheux précédent de se mêler d'une façon trop curieuse des affaires personnelles d'un gentleman quand il juge à propos de les sceller, avertit l'auteur de la querelle qu'il n'avait rien de mieux à faire que de ne pas la mener plus loin. Peu de temps après, l'inconnu se coucha sur un banc pour dormir, et lorsqu'on se remit à penser à lui, il avait disparu. Le lendemain soir, aussitôt que fut venue l'obscurité, il circula de nouveau et traversa les rues. Il alla devant la maison du serrurier plus d'une fois, mais la famille était absente et tout était fermé. Ce soir-là, par le pont de Londres, il arriva dans Southwark. Comme il enfilait une rue longue, une femme, avec un petit panier au bras, tournait pour y entrer à l'autre bout. Dès qu'il la vit, il se cacha sous une espèce de voûte, il se tint à l'écart jusqu'à ce qu'elle fût passée, alors il sortit de sa cachette et la suivit. Elle entra dans différentes boutiques pour y acheter diverses provisions de ménage, et autour de chaque endroit où elle s'arrêta, il voltigea comme son mauvais génie, la suivant chaque fois qu'elle repassait. Il était près de 9 heures et les rues se dégarnissaient vite de passants, lorsqu'elle retourna sur ses pas, sans doute pour aller au logis. Le fantôme la suivit encore. Elle reprit la même rue borgne où il l'avait aperçue la première fois. Cette rue, n'ayant pas de boutique et étant étroite, se trouvait extrêmement sombre. La pauvre femme y doubla le pas, comme si elle eût craint d'être arrêtée et dépouillée de ce qu'elle avait sur elle, quoiqu'elle n'eût pas grand-chose. Il rampa le long de l'autre côté. Eût-elle été douée de la vitesse du vent, il semblait que l'ombre terrible de cet homme l'eût suivie à la trace et réduite aux abois. Enfin, la veuve, car c'était elle, atteignit sa propre porte et, toute haletante, elle fit une pause pour prendre la clé dans son panier. La joue en feu, par suite de sa marche précipitée et peut-être aussi de sa joie d'être arrivée, saine et sauve au logis, elle se baissa pour tirer la clé lorsque, en relevant la tête, elle le vit qui se tenait silencieusement auprès d'elle. L'apparition d'un rêve. Il lui mit la main sur la bouche, mais c'était inutile, car sa langue, s'attachant à son palais, ne lui laissait nul moyen de crier.
Voilà plusieurs soirs que je vous guette. La maison est-elle libre? Répondez, y a-t-il quelqu'un chez vous? » Elle ne put répondre que par un râle dans son gosier. « Faites-moi un signe !» Elle sembla indiquer qu'il n'y avait personne chez elle. Il prit la clé, ouvrit la porte, déposa la malheureuse à l'intérieur et ferma la porte avec soin derrière eux.
Chapitre 17. C'était une nuit glaciale et dans la salle à manger de la veuve, il n'y avait presque plus de feu. L'inconnu, son compagnon, l'assit sur une chaise, se baissa devant les braises à moitié éteintes et, les ayant réunis et rassemblés, les éventa avec son chapeau. De temps en temps, il lui jetait un coup d'œil par-dessus son épaule, comme pour s'assurer qu'elle demeurait tranquille et ne faisait aucune tentative de fuite, puis, le coup d'œil jeté, il ne s'occupait plus que du feu. Ce n'était pas sans raison qu'il prenait toute cette peine, car ses vêtements étaient tout trempés, ses dents claquées, et il frissonnait de la tête aux pieds. Il avait plu très fort durant la nuit précédente et quelques heures le matin, mais à partir de l'après-midi, il avait fait beau. En quelques lieux qu'il eût passé les heures ténébreuses, son état témoignait suffisamment qu'il en avait passé la plus grande partie en plein air. Souillé de boue, ses habits saturés d'eau s'attachant à ses membres dans une étreinte humide, sa barbe non faite, sa figure sale, les joues maigres et creuses, il est douteux qu'il existât un être plus misérable que cet homme accroupi sur le foyer de la veuve et surveillant les progrès de la flamme avec des yeux injectés de sang. Elle avait couvert de ses mains sa figure, il semblait qu'elle craignît de regarder de son côté. Ils restèrent ainsi pendant quelques moments en silence. Jetant de rechef un coup d'œil autour de lui, il demanda enfin « Est-ce votre maison ? C'est ma maison. Pourquoi, au nom du ciel, venez-vous l'attrister ? Donnez-moi à manger et à boire, répondit-il d'un ton bourru, ou je ferai bien pis. Je suis glacé jusqu'à la moelle des os par l'humidité et par la faim. Il me faut de la chaleur et de la nourriture, et il me les faut ici. C'est vous qui étiez le voleur de la route de Chiguel ? C'était moi. Et presque un assassin après. Ce n'est pas l'intention qui a manqué. Il y a quelqu'un qui est arrivé sur moi en criant à tue-tête. Il lui en aurait cuit s'il n'était pas si agile. Je lui ai lancé un coup. Un coup de poignard à lui, cria la veuve, les yeux au ciel. Vous entendez cet homme, mon Dieu, vous l'entendez et vous en êtes témoin. Il la regarda au moment où, la tête renversée en arrière et les deux mains crispées ensemble, elle prononça ces mots dans l'agonie de son appel à Dieu. Alors, bondissant sur ses pieds après cette crise, il avança vers elle. « Prenez garde » cria-t-elle d'une voix qu'elle étouffait et dont la fermeté l'arrêta à mi-chemin. « Ne me touchez pas du bout du doigt ou vous êtes perdu. Perdu, vous dis-je, corps et âme. »« Écoutez-moi » répliqua-t-il en la menaçant de sa main. « Moi qui, sous la forme d'un homme, mène la vie d'une bête traquée, moi qui, dans un corps, suis un esprit, un fantôme sur la terre, une chose qui fait reculer d'effroi toutes les créatures, excepté ces êtres maudits de l'autre monde qui ne me lâcheront pas. » Je n'ai d'autre crainte en cette nuit désespérée que celle de l'enfer où je vis au jour le jour. Jeter l'alarme, pousser un cri, refuser de m'abriter, je ne vous ferai pas de mal. Mais on ne me prendra point vivant, et aussi sûr que vous me menacez là, à voix basse, je tombe mort sur ce plancher. Que le sang dont je l'arroserai soit sur vous et les vôtres, au nom du mauvais esprit qui tente les hommes pour les perdre. » À ces mots, il tira de sa poitrine un pistolet et le serra fortement dans sa main. « Éloigne de moi cet homme, Dieu de bonté !» cria la veuve. « En ta grâce et ta miséricorde, donne-lui une minute de repentir et frappe-le de mort après. »«
Il paraît que ce n'est pas son idée, » dit l'autre l'envisageant. « Il est sourd. Voyons, à boire et à manger, de peur que je ne fasse ce que je ne peux m'empêcher de faire. Et alors tant pis pour vous. Me laisserez-vous si je le fais ? Me laisserez-vous pour ne plus jamais revenir ?» « Je n'ai rien à vous promettre, » répliqua-t-il en s'asseyant à la table, « rien que ceci. J'exécuterai ma menace si vous me trahissez. » Elle se leva enfin et, allant à un cabinet attenant à la chambre, elle apporta quelques restes de viande froide et du pain et mit le tout sur la table. Il demanda un grog à l'eau-de-vie, il but et mangea avec la voracité d'un chien de chasse affamé. Tout le temps qu'il fut occupé à apaiser sa faim, elle se tint dans la partie la plus reculée de la chambre,
assise et frissonnante, sa figure tournée vers lui. Jamais elle ne lui tourna le dos, et quand elle avait à passer près de lui pour aller au buffet, par exemple, et pour en revenir, elle ramassait les bords de ses vêtements autour d'elle, comme si elle eût frémi de l'idée qu'il pût le toucher, même par hasard. Mais au milieu de sa frayeur, de sa terreur profonde, elle gardait toujours sa figure dirigée vers celle de son épouvantail et surveillait chacun de ses mouvements. Son repas terminé, si l'on peut appeler repas ce qui n'était que la satisfaction dévorante des exigences de la faim, il approcha de nouveau sa chaise du feu et, en se réchauffant devant la flamme qui jaillissait à présent toute brillante, il lui adressa encore la parole.
« Je suis un paria pour lequel un toit sur la tête est souvent une jouissance extraordinaire et les aliments que rejetterait un mendiant une nourriture délicate. Vous vivez ici dans l'aisance. Êtes-vous seul ?»«
Je ne suis pas seul, » répondit-elle avec un effort.
« Qui est-ce donc qui demeure avec vous ?»«
Quelqu'un, ça ne vous regarde pas. Vous ferez bien de partir pour qu'il ne vous trouve pas là. Qu'attendez-vous »
« Que je sois réchauffé, » répliqua-t-il en étendant ses mains devant le feu, « je me réchauffe. »«
Vous êtes riche, peut-être ?»«
Oh oui, » dit-elle d'une voix faible, « très riche. Il n'y a pas de doute, je suis très riche. »«
Du moins, vous n'êtes pas sans le sou.
Vous avez quelque argent ? Vous faisiez des emplettes ce soir. »«
Il me reste peu de choses, quelques shillings. »«
Donnez-moi votre bourse. Vous l'aviez dans votre main à la porte, donnez-la-moi. »
Elle alla vers la table et mit sa bourse dessus. Il étendit son bras sur la table, prit la bourse et en compta le contenu dans la main. Comme il était à compter, elle écouta un moment et s'élança vers lui.
« Prenez ce qu'il y a, prenez tout, prenez plus s'il y avait plus, mais allez-vous-en avant qu'il ne soit trop tard. Je viens d'entendre autour un pas étrange que je connais bien. Ce pas va revenir tout de suite, allez-vous-en. »
« Que voulez-vous dire ?
Ne vous arrêtez pas à le demander, je ne vous répondrai pas. Quelque horreur que j'ai à vous toucher, je vous traînerais à la porte si j'en avais la force, plutôt que de vous laisser perdre un instant. Misérable, fuyez de ce lieu.
S'il y a des espions dehors, je suis plus en sûreté ici, répliqua l'homme debout et effaré. Je resterai ici et je ne fuirai pas que le danger ne soit passé.
Il est trop tard, cria la veuve qui avait écouté ce pas sans faire attention à ce qu'il disait. Entendez-vous ce pas sur le sol ? Est-ce qu'il ne vous fait pas trembler ? C'est mon fils idiot.
Comme elle disait cela d'un air égaré, on frappa pesamment à la porte. Ils s'entre-regardèrent, elle et lui.
« Faites-le entrer, » dit l'homme d'une voix rauque. « Je le crains moins que la nuit noire sans asile. Le voilà qui frappe encore, faites-le entrer. »«
L'effroi de cette heure, » répliqua la veuve, « a été sur moi toute ma vie, je n'ouvrirai pas. Le crime tombera sur lui si vous vous trouvez face à face. Mon pauvre fils a la raison brûlée dans sa fleur. » Vous tous, bons anges qui savez la vérité, exaucez la prière d'une mère et préservez mon fils de reconnaître cet homme.
Il agite avec bruit les volets, cria l'homme. Il vous appelle, cette voix, ce cri, c'est lui qui m'a saisi à bras le corps sur la route, est-ce lui ?
Elle s'était affaissée sur ses genoux et elle demeura agenouillée, remuant ses lèvres sans proférer aucun son. Comme il la considérait incertain de ce qu'il devait faire pour s'éclipser, les volets s'ouvrirent tout grands. Attraper un couteau sur la table, lui donner pour gaine la large manche de son habit, se cacher dans le cabinet, tout cela fut fait avec la vitesse de l'éclair, et déjà Barnabé, tapant sur la vitre, avait haussé le châssis avec une joie triomphante.
« Mais qui donc peut me laisser dehors avec grippe ? »
cria-t-il en fourrant la tête à l'intérieur et en regardant fixement autour de la chambre. « Êtes-vous là, mère ? Comme vous nous laissez longtemps loin de la lumière et du feu ?» Elle balbutia quelque excuse et lui tendit la main, mais Barnabé, sans aide, s'élança légèrement à l'intérieur et, se jetant au cou de la veuve, la baisa plus de 100 fois.
« Nous avons été au champ, mère, sautant les fossés, grimpant au travers des haies, descendant à la course des berges abruptes, toujours en avant, plus loin et d'un bon pas. Le vent soufflait, les joncs et les jeunes plantes s'inclinaient et pliaient sous lui, de peur qu'il ne leur fît du mal, les lâches. Et Grippe, le brave Grippe qui ne s'inquiète de rien et qui, lorsque le vent le roule dans la poussière, se retourne vaillamment pour le mordre. Grippe, le vaillant Grippe, s'est querellé avec chaque brindille qui s'inclinait de son côté, pensant, m'a-t-il dit, qu'elle se moquait de lui et il voulait houspiller comme un vrai bulldog.
Le corbeau, dans son petit panier au dos de son maître, entendant répéter fréquemment son nom d'une voix accentuée par la plus vive allégresse, exprima sa sympathie en chantant comme un coq et parcourant ses diverses phases de conversation avec une telle rapidité et une telle variété de son roc qu'il retentissait comme les murmures d'une multitude.
Et puis, il faut voir comme il prend soin de moi, dit Barnabé. Ah oui, il a bien soin de moi, mère. Il veille tout le temps que je dors. Et lorsque je ferme les yeux pour lui faire croire que je sommeille, il répète doucement quelques leçons nouvelles, mais sans me perdre des yeux jamais. Et s'il me voit rire, si peu que ce soit, tout de suite il s'arrête pour faire une surprise quand il sera bien sûr de son affaire. Le corbeau chanta de rechef avec une sorte de transport qui disait clairement « Il est certain que je reconnais là quelques traits de mon caractère, je m'en vante. » Dans l'intervalle, Barnabé ferma bien la fenêtre et, allant à la cheminée, la figure tournée vers le cabinet, mais sa mère l'en empêcha en se hâtant de prendre elle-même cette place et lui faisant signe de prendre l'autre. « Comme vous êtes pâle ce soir, » dit Barnabé en s'appuyant sur son bâton, « ce n'est pas bien, Grippe, nous lui avons causé de l'inquiétude. » De l'inquiétude, oh oui, elle en éprouvait, elle en était navrée dans le cœur. L'homme aux écoutes tenait entr'ouverte avec sa main la porte de sa cachette et surveillait de près le fils de la veuve. Grippe, attentif à toutes les choses dont son maître ne s'apercevait pas, sortait sa tête de son petit panier et répondait à l'espionnage de l'inconnu en le surveillant extrêmement de son œil étincelant. « Il bat des ailes, » dit Barnabé, en se tournant si vite que sa vie faillit saisir cette ombre qui se retirait, cette porte qui se refermait, comme s'il y avait ici des étrangers. « Mais Grippe est trop raisonnable pour s'imaginer cela. Saute donc !» Acceptant cette invitation avec un clignotement qui lui était particulier, l'oiseau sautilla sur l'épaule de son maître, de là sur sa main étendue et de là enfin sur le plancher. Barnabé se débarrassa des courroies du petit panier et le déposa par terre dans un coin, le couvercle ouvert. Le premier soin de Grippe fut de faire tomber ce couvercle le plus vite possible et ensuite de se percher dessus, croyant sans aucun doute qu'il avait rendu tout à fait impraticable à la puissance d'un mortel l'opération de l'enfermer après. Il imita dans son triomphe le glou-glou du grand nombre de bouteilles débouchées et poussa autant de « hurrahs ». Mère, dit Barnabé en mettant de côté son chapeau et son bâton et retournant s'asseoir sur sa chaise, « je vais vous dire où nous avons été aujourd'hui et ce que nous avons fait, voulez-vous » Elle prit sa main dans les siennes et, l'y tenant, elle donna d'un signe de tête le consentement qu'elle n'avait pas la force d'articuler. « Vous n'en direz rien, il ne le faut pas, » dit Barnabé en levant son doigt, « car c'est un secret, voyez-vous, qui n'est connu que de moi, de Grippe et de Hugues. Nous avions le chien avec nous, mais il ne vaut pas Grippe malgré sa finesse, et il ne s'en doute seulement pas. Pourquoi regardez-vous ainsi derrière moi ? » « Ai-je regardé ? » répondit-elle d'une voix faible. « C'est bien sans le savoir. Rapprochez-vous de moi. » « Vous êtes effrayé, » dit Barnabé en changeant de couleur. « Mère, vous ne venez pas de voir. » « Voir quoi ? » ?»« Oh, il n'y en a pas ici. Il n'y en a pas du tout, n'est-ce pas ? » répondit-il avec un chuchotement. Et il se rapprocha d'elle et il serra d'une main la marque empreinte sur son poignet. « J'ai peur que ça n'y soit quelque part. Vous me faites dresser les cheveux sur la tête, vous me donnez la chair de poule. Pourquoi regardez-vous de la sorte ? Ça serait-il dans la salle comme je l'ai vu en mes rêves, éclaboussant le plafond et les murs de rouge ? Dites-moi, ça y est-il ? » Il eut un accès de frisson en faisant cette demande et couvrant de ses mains la lumière, il resta assis, tremblant de tous ses membres, jusqu'à ce que la crise fût passée. Quelque temps après, il leva la tête et regarda autour de lui. « Ça a-t-il disparu ?»« Il n'y a rien eu ici, » répliqua la mère en le calmant. « Rien en vérité, mon cher Barnabé. Regardez, vous voyez qu'il n'y a que vous et moi. » Il la considéra d'un œil distrait et, se rassurant par degrés, il jeta un fol éclat de rire. « Mais voyons, » dit-il d'un air pensif, « il me semble que nous, était-ce vous et moi, où avons-nous été ?» Nulle part ailleurs qu'ici. Oui, mais Hugues et moi, dit Barnabé, c'est cela. Hugues de l'arbre de mai et moi, vous savez, et Grippe, nous avons été à l'affût dans la forêt et parmi les arbres qui bordent la route avec une lanterne sourde après la tombée de la nuit et le chien en laisse, une laisse prête à glisser dès que l'homme viendrait tout contre.
Quel homme ?
Le voleur, celui que les étoiles regardaient en clignotant. Nous l'avons attendu à partir du moment où il fait noir, pendant plusieurs des nuits dernières, et nous l'aurons. Oh, je le reconnaîtrai entre mille mères. Voyez donc, voici l'homme tel qu'il est. Regardez !» Il tortilla son mouchoir autour de son cou, enfonça son chapeau sur ses sourcils, s'enveloppa dans son habit et se tint debout devant elle. C'était une copie si parfaite de l'original
que le sombre personnage qu'il examinait derrière par la porte entrouverte aurait pu passer lui-même pour n'en être que l'ombre. « Ah ! Nous l'aurons !» cria-t-il en dépouillant cette ressemblance aussi promptement qu'il avait prise. « Vous le verrez, mère, pieds et poings liés. On l'amènera à Londres, sanglé sur la selle d'un cheval. Vous entendrez parler de lui au gibet de Tyburn si nous avons de la chance. » C'est ce que dit Hugues. « Eh bien, vous voilà redevenue pâle et tremblante. Mais pourquoi donc regardez-vous ainsi derrière moi ?»« Ce n'est rien, » répondit-elle. « Je ne suis pas tout à fait à mon aise. Allez-vous mettre au lit, cher enfant, et laissez-moi ici. » « Au lit, » répliqua-t-il, « je n'aime pas le lit. J'aime à me coucher devant le feu et à guetter les images qui s'échappent des charbons enflammés, les rivières, les collines, les vallons qu'empourprent un large soleil couchant et des figures extraordinaires. J'ai faim d'ailleurs et Grippe n'a rien mangé depuis plus de midi. Donnez-nous à souper. Grippe, on soupe, mon garçon !» Le corbeau battit des ailes et, croissant pour montrer qu'il était satisfait, il sautilla au pied de son maître. Et là, il resta le bec ouvert, prêt à happer tel morceau de viande que celui-ci lui jetterait. Il en reçut une vingtaine environ, sans que la rapidité avec laquelle ils se succédèrent troublât aucunement son attitude. « C'est tout !» dit Barnabé.
« Encore !» cria Grippe. « Encore !»
Mais comme il reconnut qu'il n'avait positivement pas à en espérer davantage, il s'éloigna avec sa provision et, dégorgeant les morceaux un à un de son jabot, il alla les cacher dans divers coins, prenant un soin particulier toutefois d'éviter le cabinet, comme s'il doutait que l'homme caché pût vaincre sa gourmandise et résister à la tentation. Quand il eut terminé ses arrangements, il fit un tour ou deux au travers de la salle, en s'étudiant à feindre que rien ne le préoccupait, mais ayant un œil fixé sur son trésor pendant tout ce temps-là, et après, mais pas tout de suite, il commença à le tirer des cachettes, morceau par morceau, et à le manger avec la plus grande volupté. Barnabé, pour sa part, ayant pressé sa mère de souper, mais en vain, soupa comme Grippe de bon cœur. Une fois, dans le cours de son repas, il lui fallut encore du pain, et il se leva pour en prendre dans le cabinet. Elle se précipita au-devant, l'empêcha d'y entrer, et, appelant à soi tout son courage, elle entra dans le réduit et rapporta le pain elle-même. « Mère !» dit Barnabé en la regardant fixement lorsqu'elle s'assit près de lui à son retour du cabinet. « C'est aujourd'hui l'anniversaire de ma naissance. »« Aujourd'hui, » répondit-elle, « ne vous souvenez-vous pas que c'était il n'y a pas plus de 8 jours et que l'été, l'automne, l'hiver devront s'écouler avant qu'ils reviennent ?»« Je me souviens que c'était comme cela jusqu'à présent, » dit Barnabé, « mais je crois que malgré tout, c'est aujourd'hui aussi l'anniversaire de ma naissance. » Elle lui demanda pourquoi. « Je vais vous dire pourquoi, » dit-il. « Je vous ai toujours vu, je ne voulais pas laisser remarquer, mais rien n'est plus vrai, devenir le soir de ce jour-là d'une extrême tristesse. Je vous ai vu pleurer quand Grippe et moi nous étions fort joyeux et avoir l'air effrayé sans aucun motif. Et j'ai touché votre main et j'ai senti qu'elle était froide comme elle l'est à présent. Une fois, mère, c'était aussi un des anniversaires de ma naissance, Grippe et moi pensâmes à cette tristesse après être montés nous coucher et passé minuit au moment où sonnait 1 heure, nous descendîmes à votre porte pour voir si vous n'étiez pas malade. Vous étiez à genoux, je ne me souviens pas de ce que vous disiez. Grippe, qu'est-ce que nous avons entendu dire cette nuit-là ?
« Je suis un démon !»
répliqua promptement le corbeau. « Non, non, » dit Barnabé, « mais vous disiez quelque chose dans une prière. Et quand vous vous relevâtes et fîtes plusieurs pas autour de la chambre, vous aviez, comme vous l'avez toujours eu depuis, mère, quand approche la nuit de l'anniversaire de ma naissance, juste la physionomie que vous avez à présent. J'ai découvert cela. Vous voyez, quoique je sois un insensé, je dis donc que vous êtes dans l'erreur, et ce doit être aujourd'hui l'anniversaire de ma naissance, mon anniversaire de naissance, Grippe !» L'oiseau accueillit cette communication avec de tels croassements qu'un coq, doué de plus d'intelligence que tous ceux de son espèce, n'annoncerait pas le plus long jour par un chant plus soutenu. Puis, après avoir bien réfléchi pour dégoiser en guise de toast la phrase qu'il jugeait la plus convenable pour fêter un anniversaire de naissance, il cria plusieurs fois
« Oh les corps, n'aie pas peur !»
et il accentua ces mots en battant des ailes. La veuve essaya de paraître attacher peu d'importance à la remarque de Barnabé et chercha à reporter l'attention de son fils sur quel autre sujet, tâche toujours facile, elle le savait trop bien. Son souper fini, Barnabé, sans tenir compte des instances de sa mère, s'étendit sur le paillasson devant le feu. Grippe se percha sur la jambe de son maître et partagea son temps entre des assoupissements causés par l'agréable chaleur et des efforts, comme il le parut bientôt, pour se rappeler un nouvel exercice qu'il avait étudié toute la journée. Un long et profond silence suivit, silence interrompu seulement lorsque changeait de position Barnabé, dont les yeux encore tout grands ouverts regardaient fixement le feu, ou lorsqu'il y avait quelque effort mnémonique de la part de Grippe qui criait de temps en temps à voix basse
« Polly, mettez la bouée !»
et s'arrêtait court, oubliant le reste et faisant un nouveau somme. Après un long intervalle, la respiration de Barnabé devint plus profonde et plus régulière, et ses yeux finirent par se fermer, mais ce n'était pas le compte de l'esprit inquiet du corbeau.
« Polly, mettez la bouée !»
cria Grippe, et son maître fut encore réveillé cette fois. Enfin, Barnabé s'endormit solidement, et l'oiseau, avec son bec affaissé sur sa poitrine, qui prit la forme bouffante d'une confortable bedaine de conseiller municipal, et ses yeux brillants, qui devenaient de plus en plus petits, parut véritablement s'abandonner aussi au repos. De temps en temps, seulement, il marmottait encore d'une voix sépulcrale
« Polly, mettez la bouée !»
comme quelqu'un de très assoupi, et plutôt comme un homme ivre que comme un corbeau méditatif. La veuve, respirant à peine de peur de les réveiller, se leva de son siège, l'homme se coula hors du cabinet et éteignit la chandelle.
« Du roi au feu !»
cria Grippe, frappé d'une idée subite et très excitée.
« Du roi au feu !» Hurrah! Polly, mettez la bouilloire au feu, à boire pour tous! Hurrah, hurrah, hurrah! Je suis un démon! Je suis un démon! Je suis la bouilloire! Oh les cœurs, n'aie pas peur! Oh les cœurs, n'aie pas peur! Oh, oh, oh. Je suis un démon! Je suis la bouilloire! Je suis Polly, mettez la bouilloire au feu, à boire pour tous.
Ils restèrent enracinés au sol, comme si c'eût été une voix sortant d'un tombeau. Mais ceci même ne put pas réveiller le dormeur. Il se retourna du côté du feu, son bras tomba sur le sol, et sa tête s'abattit lourdement sur son bras. La veuve et son affreux visiteur regardèrent Barnabé un moment, et se regardèrent l'un l'autre, puis elle lui montra la porte. « Un instant, » dit-il tout bas, « vous instruisez bien votre fils. Je ne lui ai rien enseigné de ce que vous avez entendu ce soir. Partez à l'instant où je vais le réveiller. Libre à vous de le faire. Voulez-vous que je le réveille ? Vous n'oserez pas. J'oserai faire n'importe quoi, je vous l'ai dit. Il me connaît bien, ce me semble. Au moins, je veux aussi le connaître. Voudriez-vous le tuer dans son sommeil ? » cria la veuve en se jetant entre eux. « Femme, » répliqua-t-il en desserrant à peine les dents, comme il lui faisait signe de s'écarter, « je désire le voir de plus près, je le veux. Si vous tenez à ce que l'un de nous tue l'autre, réveillez-le. » Cela dit, il avança, et se penchant sur le corps étendu, il tourna doucement la tête en arrière et regarda en face la figure. La lueur du foyer donnait en plein sur elle, et chaque trait s'y révélait d'une manière distincte. Il contempla cette figure un moment, puis, se redressant avec précipitation, « Rappelez-vous bien ceci, » chuchota-t-il à l'oreille de la veuve. « Par lui, dont l'existence a été ignorée de moi jusqu'à ce soir, je vous tiens en ma puissance. Prenez garde à vos procédés envers moi. Prenez-y garde. Je suis dénué de tout, je meurs de faim, j'erre incessamment sur la terre. Je puis tirer de vous une sûre et lente vengeance. Il y a dans vos paroles quelque sens horrible que je ne saurais approfondir. Le sens en est clair. » Et je vois que vous l'approfondissez autant qu'il faut. Voilà bien des années que vous pressentiez cela, vous me l'avez presque dit. Je vous laisse réfléchir là-dessus, n'oubliez pas mon avertissement. » Il lui montra du doigt comme il l'a quitté, Barnabé endormi, et se retirant à la dérobée, il gagna la rue. Elle tomba à genoux auprès du dormeur, et y resta semblable à une femme pétrifiée, jusqu'à ce que les larmes, gelées si longtemps par la frayeur, vinssent lui procurer un tendre soulagement. « Oh toi, cria-t-elle, qui m'as enseigné un si profond amour pour cet unique reste des promesses d'une vie heureuse, pour ce fils dont l'affliction même est pour moi la source de mon unique consolation, Quand je vois en lui un enfant plein de confiance en moi, plein d'amour pour moi, sans devenir jamais ni vieux ni froid de cœur, condamné dans la force de l'âge viril, comme lorsqu'il était en son berceau, avoir besoin de ma sollicitude maternelle et de mon dévouement, daigne le protéger durant sa marche obscure au travers de ce triste monde où c'en est fait de lui, et mon pauvre cœur est brisé.
Chapitre 18. Glissant le long des rues silencieuses et choisissant pour y diriger sa course les plus sombres et les plus tristes, l'homme qui avait quitté la maison de la veuve traversa le pont de Londres et, une fois dans la cité, plongea au sein des places écartées, des ruelles et des cours entre Cornhill et Smithfield. Il n'avait pas d'autre but que de se perdre parmi leurs détours et de déjouer toute poursuite si quelqu'un s'attachait à ses pas. C'était au plus fort de la nuit et tout était tranquille. De temps en temps, les pas d'un veilleur assoupi résonnaient sur le trottoir, ou l'allumeur de réverbère dans ses rondes passait comme l'éclair en laissant derrière lui une petite traînée de fumée qui se mêlait à des flamèches rouges de sa torche ardente. L'homme se cachait, même de ses compagnons accidentels, de sa course solitaire et se repliant sous quelque voûte ou quelque entrée de porte jusqu'à ce qu'ils fussent passés. Il sortait de là quand il s'était éloigné et continuait d'errer seul. Être seul et sans abri en rase campagne, entendre le vent gémir, guetter le jour pendant toute une longue nuit fatigante, écouter tomber la pluie et se tapir pour avoir chaud sous la retraite abritée de quelque vieille grange ou de quelque meule ou dans le creux d'un arbre, c'est une horrible chose, mais moins horrible que d'errer ça et là où se trouvent des abris, des lits et des dormeurs par milliers, créatures sans asile et qu'on rejette. Foulé d'heure en heure les pavés retentissants en comptant la monotone sonnerie des horloges, observer les lumières qui scintillent aux fenêtres des chambres, penser quel heureux oubli de la vie renferme chaque maison, se dire qu'il y a là des enfants roulés ensemble dans leur lit, que les jeunes, les vieux, les pauvres, les riches jouissent tous là de l'égalité devant le sommeil et goûtent tous le repos, n'avoir rien de commun avec le monde endormi autour de soi, pas même le sommeil, don de Dieu à toutes ses créatures, et ne pas se connaître d'autre parenté que le désespoir. Se sentir, par le misérable contraste, avec toute chose de tous côtés, plus absolument seul et plus proscrit que dans un désert inabordable. C'est un genre de souffrance que maintes fois les grandes cités roulent dans leurs flots populeux et qui ne peut naître que dans la solitude en pleine foule. Le malheureux homme arpenta en tous sens ces rues si longues, si ennuyeuses, si semblables les unes aux autres, et souvent il jeta un regard attentif vers l'est, espérant voir les premiers faibles rays du jour, mais la nuit obstinée gardait encore le ciel dans sa possession, et la course inquiète et incessante du rôdeur ne trouvait pas de repos. Une maison dans une rue écartée brillait du joyeux éclat des lumières. On y entendait le son de la musique et les pas des danseurs, il y avait là de joyeuses voix et plus d'un éclat de rire. Pour se rapprocher de quelque chose qui fut éveillé et qui sentit la joie, il retourna à plusieurs reprises, et plus d'un des gais convives qui quittèrent cette maison quand l'allégresse y était au comble sentirent leur folâtre humeur réprimée en le voyant voltiger çà et là comme une âme en peine. À la fin, ils se retirèrent tous jusqu'au dernier, et alors la maison fut complètement close et devint à son tour aussi morne et silencieuse que le reste. Sa course errante l'amena une fois à la prison de la cité. Au lieu de s'en éloigner à la hâte comme d'un endroit de mauvais augure, d'un endroit qu'il avait sujet d'éviter, il s'assit sur quelques degrés qui étaient tout près et, appuyant son menton sur sa main, il en considéra les murailles âpres et rébarbatives comme si elles promettaient un refuge à ses yeux harassés. Il fit et refit le tour de cet endroit, il y revint et s'y rassit. Il recommença et, une fois, avec un mouvement précipité, il traversa pour aller où veillaient quelques hommes dans la loge du portier de la prison
et il eut le pied sur les marches, mais ayant regardé autour de lui, il vit que le jour commençait à poindre et, abandonnant son dessein, il tourna le dos et s'enfuit. Il se retrouva bientôt dans le quartier qu'il avait parcouru naguère et l'arpenta en tous sens, comme il avait fait encore avant. Il descendait une rue infime lorsque d'une allée tout près de lui s'élevèrent des bachiques acclamations et sortirent nonchalamment une douzaine d'écervelés, se huant, s'appelant l'un l'autre, puis se séparant d'une manière tapageuse, prenant différentes routes et se dispersant en petits groupes. Dans l'espoir qu'il y avait à proximité quelques tavernes de bas étage qui lui procureraient un sûr asile, il entra dans cette cour quand la bande fut partie et il promena ses yeux à la ronde afin d'apercevoir une porte à demi ouverte ou une fenêtre éclairée ou quelque autre indice du lieu d'où venaient ces bamboucheurs. Mais tout y était d'une obscurité si profonde, d'un aspect tellement sinistre, qu'il en conclut que les braillards ne s'étaient introduits là qu'en se trompant de chemin et qu'ils revenaient sur leurs pas au moment où il les avait remarqués. Avec une semblable opinion, et reconnaissant d'ailleurs qu'il n'existait point d'autre issue que celle par où il était entré lui-même, il allait reprendre le même chemin lorsque, d'un grillage presque à ses pieds, s'échappa un soudain courant de lumière et le bruit d'une conversation se rapprocha. Le rôdeur fit retraite dans une entrée de porte pour voir qui étaient ses causeurs et les écouter. Comme il exécutait son mouvement, la lumière arriva au niveau du pavé de la cour et un homme monta une torche à la main. Ce personnage ouvrit la serrure, éteint le grillage relevé pour en laisser passer un autre qui parut immédiatement sous la forme d'un jeune homme de petite stature et d'un air d'importance peu commun, habillé à la vieille mode avec un luxe de mauvais goût. « Bonsoir, noble capitaine, » dit l'homme à la torche. « Adieu, commandant. Bonne chance, illustre général. » L'autre répondit à ses compliments en lui ordonnant de se taire et de garder pour lui son bruyant ramage. Il lui adressa plusieurs autres injonctions du même genre, avec une grande fluidité de parole et une grande sévérité de manière. « Mes hommages, capitaine, à cette Miggs dont vous avez transpercé le cœur, » répliqua le porteur de torche en baissant de ton. « Mon capitaine vise un gibier de plus haute volée que des Miggs. Mon capitaine est un aigle. S'il en a le coup d'œil, il en a aussi les ailes. Mon capitaine vous casse un cœur comme d'autres célibataires vous cassent un œuf à la coque. »«
Vous êtes fou, Stagg, »
dit M. Tappertit en mettant le pied sur le pavé de la cour et se frottant les jambes pour ôter la poussière qu'il avait ramassée dans son ascension. « Quel précieux membre !» cria Stagg en étreignant une de ses chevilles. « Une Miggs oserait prétendre à des jambes faites autour comme ça. Non, 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 mon capitaine, nous enlèverons de belles dames et nous les épouserons dans notre secrète caverne. Nous nous unirons avec de florissantes beautés, capitaine !»
« Je vous dirai une chose, mon gaillard, »
dit M. Tappertit en dégageant sa jambe,
« c'est que je vous dispense de prendre de ces libertés-là avec moi et de toucher certaines questions à moins que je ne vous y autorise. Parlez, quand on vous parle, de certains sujets réservés, mais jamais autrement. Levez votre torche jusqu'à ce que je sois à l'entrée de la cour avant de retourner à la niche. M'entendez-vous ? »
Je vous entends, noble capitaine.
Obéissez donc, dit M. Tappertit avec hauteur. Messieurs, en avant, marche!
En prononçant ce commandement, adressé à son état-major imaginaire, il se croisa les bras et sortit de la cour avec une dignité suprême. Son obséquieux acolyte resta debout, levant la torche au-dessus de sa tête, et l'espion vit alors, pour la première fois, du fond de sa cachette, que c'était un aveugle. Quelque mouvement involontaire de l'espion frappa la fine oreille de l'aveugle avant que l'autre eût seulement bougé d'un pouce, car il se retourna soudain en criant « Qui est là ?»«
Un homme, » dit l'autre en avançant.
« Un ami. »«
Un inconnu, »
répliqua l'aveugle.
« Les inconnus ne sont pas mes amis. Que faites-vous là ?»«
J'ai vu votre compagnie sortir et j'ai attendu ici qu'elle fût partie. Il me faut un logement. »«
Un logement à cette heure ?»
répliqua Stagg en lui montrant du doigt l'aube comme s'il la voyait. « Savez-vous qu'il va être jour ?»«
Je le sais, » répartit l'autre, « à mes dépens. J'ai sillonné cette ville au cœur de fer pendant toute la nuit. » Ce que vous avez de mieux à faire, c'est de la sillonner encore, dit l'aveugle en se préparant à descendre, jusqu'à ce que vous trouviez quelque logement dont votre goût s'accommode. Moi, je n'en loue pas. Arrêtez, dit l'autre en le retenant par le bras. Ne me retenez pas, ou je vais vous briser cette torche sur votre figure de pandard. Car c'est une figure de pandard si elle ressemble à votre voix. Et je vais réveiller tout le voisinage. Laissez-moi descendre, entendez-vous ? Entendez-vous ? Riposta l'autre en faisant sonner ensemble quelques shillings et les lui collant dans la main avec précipitation. Je ne suis pas un mendiant. Je payerai l'asile que vous me donnerez. Par la mort, est-ce donc trop demandé à un homme tel que vous ? J'arrive de la campagne et je désire me reposer quelque part à l'abri des curieux. Je suis affaibli, épuisé, harassé, mourant de fatigue. Laissez-moi me coucher comme un chien devant votre feu. Je ne vous en demande pas davantage. Si vous voulez vous débarrasser de moi, je partirai demain.
Lorsqu'un gentleman a eu quelques malheurs sur la route, marmotta Stagg, cédant à l'autre qui, le suivant de près, avait déjà gagné une marche, et qu'il peut payer son logement, je vous donnerai tout ce que j'ai. Justement, je n'éprouve en ce moment aucun besoin de nourriture, Dieu le sait, et je ne souhaite que d'acheter un asile. Avez-vous quelqu'un en bas ?
Personne. Alors fermez votre grille et montrez-moi le chemin, vite !
L'aveugle consentit après un moment d'hésitation et ils descendirent ensemble. Le dialogue avait été des plus rapides et les deux hommes atteignirent la misérable demeure de Stagg avant que celui-ci eût eu le temps de revenir de sa première surprise.
« Puis-je voir où mène cette porte ? Est-ce qu'il y a plus loin ? » dit l'étranger en jetant à la ronde un œil perçant. « Ça ne vous fait rien ?
« Avez-vous le montrer moi-même ? Suivez-moi ou allez devant, à votre choix. »
L'étranger lui dit de le précéder et, à la lueur de la torche que son guide levait en l'air exprès, il fit des trois caves un examen minutieux. Assuré que l'aveugle ne l'avait pas trompé et qu'il habitait là tout seul, le visiteur retourna avec son hôte à la première cave dans laquelle était un bon feu et se jeta devant, étendu par terre, avec un profond gémissement. Son hôte continua ses occupations ordinaires, sans paraître songer à lui davantage, mais à peine se fut-il endormi, et l'aveugle s'en aperçut aussi promptement que l'eût fait un homme doué de la vue la plus perçante, que Stagg s'agenouilla auprès de lui et lui passa légèrement mais soigneusement la main sur la figure et sur le corps. Il eut un sommeil entrecoupé de soubresauts et de gémissements et interrompu rarement d'un mot ou deux qu'il murmurait. Ses mains étaient serrées, ses sourcils froncés, sa bouche étroitement close. Rien de tout cela n'échappa à l'inventaire exact que l'aveugle dressa de sa personne et, sentant sa curiosité fortement excitée, comme s'il avait déjà pénétré quelque chose du secret de l'inconnu, il resta assis à le surveiller, si l'on peut surveiller sans voir, et à écouter jusqu'à ce qu'il fît grand jour. »